Bon, je vais vous présenter la version que j'ai faite à une hôtesse de l'air qui me demandait la même chose en rentrant dans un avion. Donc, c'est la version pitch. J'avais 30 secondes. Je lui ai dit, bon, ça ne va pas aller très loin, mais pour commencer, on peut démarrer comme ça. C'est un outil qui aide à la responsabilisation et à la coopération, et le tout au service de la raison d'être de l'entreprise. Alors, je sais qu'on peut dire ça de prendre beaucoup de choses, mais tout ce que j'ai dit est vrai, et derrière tous les mots, en fait, il y a un sens qu'on pourra décliner ensuite.
ASAP.
Je suis Alexandre Zermati et chaque mois je rencontre pour vous des personnalités inspirantes du monde du travail. Au menu ce mois-ci, l'holacratie et son pape hexagonal, Bernard-Marie Chiquet. J'ai découvert Bernard-Marie en lisant l'excellente BD dédiée à l'holacratie dont il est l'auteur. L'holacratie a été mise en place dans de nombreuses entreprises, les plus célèbres étant Zappos ou Danone. L'holacratie permet de sortir de l'organisation pyramidale des entreprises et elle permet également à chacun de se manager lui-même. Mais qu'est-ce que c'est que l'holacratie? C'est la question fil rouge de cet épisode. Je précise que vous retrouverez en note de l'épisode toutes les références évoquées par mon invité, y compris son excellente BD. Alors si vous aimez ce podcast, le meilleur moyen de me soutenir est de lui donner 5 étoiles sur Apple Podcasts ou de le liker sur l'application de votre choix. Je laisse tout de suite la parole à mon invité.
Bien, je m'appelle Bernard-Marie Chiquet, je suis fondateur d'un institut de recherche sur les modes de gouvernance qui s'appelle AGI Partners. Voilà, c'est ma seconde vie professionnelle après une vie passée dans le management. Moi, j'étais entrepreneur plusieurs fois, j'ai dirigé des entreprises et j'ai aussi été consultant en management. Donc j'ai fait le tour des trois postures, patron, employé et consultant. Alors, mon quotidien aujourd'hui, je le passe dans les entreprises pour mettre en place ce qu'on appelle l'holacratie. Et comment est-ce que je suis arrivé à ça? Longue histoire. Disons que dans mon passé d'entrepreneur, de manager ou de dirigeant, j'ai toujours été frappé de constater que j'étais moins bien que moi. Je me sentais en fait mal utilisé, parfois même inutile, souvent mal utilisé. En fait, j'avais démarré salarié, tout au début, j'ai commencé comme salarié, et puis j'avais pas mal d'idées, donc je suis allé voir mon chef de département, c'est comme ça que ça s'appelait à l'époque. Il comprenait pas trop ce que je lui disais, je dis, pas grave, je vais aller voir son boss à lui. Je suis allé voir donc chef de division, c'est ça, division. Et il m'a dit, écoute, c'est super ce que tu proposes, Bernard-Marie, mais il faut que tu vois ça avec ton chef de département. Alors, j'ai dit, bon, là, ça ne va pas être possible. Et c'est là que j'ai donné ma démission. Et puis voilà, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je ne suis pas fait pour être salarié, donc probablement, je vais diriger. Donc, j'ai créé une entreprise. Et comme je ne savais rien faire, j'ai créé une entreprise de conseil. Le conseil, ça de plus facile que les autres, c'est que finalement, il suffit d'avoir un petit peu d'avance par rapport au client. Il n'y a pas beaucoup d'actifs, il n'y a pas d'investissement particulier. Donc, en tout cas, c'est la voie que j'ai prise. J'aurais pu en prendre d'autres, mais c'est ce qui m'a semblé le plus facile.
Moins bien que moi.
Non, je crois que ce que je fais aujourd'hui correspond sans doute à la plus grosse difficulté que je peux avoir sur la planète. J'ai toujours été un rebelle, j'ai fugué de chez moi, je suis parti bien avant l'âge et je viens de vous raconter l'histoire avec les salariés. Donc j'ai toujours eu des problèmes avec la relation de pouvoir. Et aujourd'hui, justement, je suis justement en train de renverser les questions de l'exercice du pouvoir, la relation de pouvoir. C'est ce que je fais dans les entreprises. Et je pense que j'ai beaucoup de copains à qui il arrive les mêmes choses. Dès qu'on commence à chercher sa zone de talent, souvent, en tout cas pour moi, ma zone de talent, elle correspond, c'est la polarité inverse, en fait, de ma plus grande souffrance. Souvent, je me pose la question de quel est le sens de la vie sur Terre, comme beaucoup de gens. Et moi, l'histoire que je me raconte, que j'en ai me suis raconté plein, et celle que je me raconte, qui a l'air de se stabiliser, c'est que je suis probablement là pour faire quelque chose, et ce faire quelque chose, finalement, c'est pas tellement intéressant de savoir quoi faire, mais de savoir quels sont mes talents, et que si je suis mes talents, je vais faire ce que je suis venu faire, en fait, sur cette planète Terre. Et dès que je me suis un peu intéressé, il y a longtemps, à la question des talents, je suis arrivé, et c'est la même chose pour les entreprises, on pourra faire le lien avec la notion de raison d'être. Je suis arrivé à me rendre compte qu'en fait, mes talents étaient exactement la polarité inverse des zones de souffrance, des blessures que j'ai eues dans le passé. Comme si le simple fait de passer par le vécu ou le mal vécu que j'ai eu, ça m'a permis de développer des compétences justement qui sont la polarité inverse.
Renverser l'exercice du pouvoir, la relation de pouvoir.
En fait, holacratie, on pourrait dire simplement que c'est un outil qui rend les choses explicites. Et c'est important de rendre les choses explicite parce que une des plus grosses causes de souffrance démontrée par les théoriciens des organisations et notamment Elliot Jacks, il a démontré à travers ses travaux que la plus grande source de souffrance dans les organisations, mais on pourrait généraliser, c'est vrai en dehors des organisations, c'est les attentes implicites. À chaque fois que vous laissez une attente implicite s'installer entre vous et une autre personne ou plusieurs autres personnes, vous êtes en train de signer pour des problèmes plus tard. Lorsque j'étais dirigeant et patron d'entreprise, ça m'arrivait de penser que tel ou tel collaborateur ne faisait pas le job. Et avec le recul, parce que maintenant je pratique Holacracy, AGI Partners est une société, en fait il y a deux sociétés, Holacracy One aux US et nous, qui pratiquons Holacracy, ça fait 10 ans maintenant, donc on est des entreprises qui utilisent cet outil depuis le plus longtemps. Et je me rends compte que dans 80% des cas de figure où j'ai pu juger qu'un collaborateur ne faisait pas son job, en réalité, c'est pas qu'il faisait pas son job, c'est que moi je projetais qu'il devait faire son job de telle manière. Sauf que je n'avais aucune idée de la façon dont il voyait son job et qu'on n'en avait jamais parlé. Tout ça était complètement implicite. Et donc je projetais sur lui un mode de fonctionnement qui était mon mode de fonctionnement. Sauf que, évidemment, on a tous des modes de fonctionnement différents. À l'époque, je n'étais pas trop conscient de ça. Et on n'avait pas d'outils. Et donc, j'ai plongé là-dedans. Donc, vous imaginez les dégâts que ça peut faire derrière. À titre privé, j'aime bien raconter cette histoire qui m'est arrivée dans ma vie, juste pour m'enseigner. J'avais, à une époque de ma vie, quelqu'un dans la famille avait besoin d'argent. J'en avais. Donc, je lui ai prêté de l'argent, évidemment, en famille. On ne va pas faire non plus de contrat. Et on n'a rien écrit. Les remboursements arrivaient trois ans plus tard et trois ans plus tard, on se rend compte qu'on n'avait pas compris la même chose trois ans plus tôt. Enfin, je ne vous raconte pas les problèmes. Donc, en fait, c'est une illustration très simple de ce que je pense que tout le monde sait. C'est qu'à chaque fois qu'on laisse, on a besoin d'implicite, hein, je ne parle pas d'implicite en général, l'être humain a besoin d'implicite, mais à chaque fois qu'on laisse quelque chose, un attendu implicite, on est en train de signer pour des embêtements plus tard. Donc, si on est d'accord là-dessus, et ça a l'air d'être prouvé, enfin, il y a des théories, des travaux scientifiques qui ont été faits là-dessus, du coup, ça serait quand même non-assistance à personne, à humanité en danger, et dans les organisations en particulier, que de ne pas traiter en priorité ce problème-là. Donc, en fait, Holacracy est basé là-dessus, en fait, et que là-dessus, en réalité. Holacracy est un outil qui permet de rendre explicite tous les attendus. Et il y a même un article dans Holacracy. En fait, Holacracy, on ne peut pas le définir parce que c'est un document en réalité. On appelle ça une constitution. La constitution, Holacracy, c'est la définition. Donc c'est un document, là j'ai sous les yeux, ça dépend du format. Moi j'ai un format là, A5, on est en 70 pages. C'est pas si important que ça. Les règles du jeu du football, c'est 140 pages. Et dans cette constitution, il y a un article enfin il y en a plusieurs qui sont passionnants, et notamment il y a le 4.1.5. Tout ce qui est implicite n'a strictement aucun poids. C'est hyper puissant, ça veut dire que potentiellement tous les jeux politiques sont éradiqués. Ou tous les jeux politiques sont éradicables si on a envie de les éradiquer. Tout ce qui est implicite n'a strictement aucun poids. Donc tout est basé sur l'explicite. Donc si je reviens à ce que je disais tout à l'heure dans les organisations, ben en fait, je ne pouvais pas m'attendre, je reviens aux personnes dont je pouvais penser, en fait, parce que ça m'arrive encore, de penser que les autres ne font pas leur travail. Mais maintenant j'ai acquis un réflexe, je vais aller regarder ce qu'on appelle les rôles. Dans le logiciel, on a besoin d'un logiciel pour faire tourner ça. On va regarder les rôles, qui sont les unités de travail, si vous voulez. Autrefois, on avait peut-être des fiches de poste, maintenant, on a des rôles. Et on les regarde probablement plus souvent que les fiches de poste. Et en fait, dans ces rôles, il y a une vitrine, il y a ce qu'on appelle des offres de services, des redevabilités dans notre jargon. Il y a un jargon parce qu'il y a des trucs nouveaux, donc effectivement, c'est l'inconvénient de la nouveauté. Et donc, je vais regarder quelles sont ses responsabilités, son offre de service. Et je vais me rendre compte, ça va me permettre de pouvoir rentrer dans ses chaussures facilement et de me rendre compte que ce que j'attendais ou je m'attendais à ce qu'il fasse, en réalité, il n'avait pas à le faire parce que ce n'était pas explicite. Et donc, j'aurais évité de me tromper 80% des fois quand j'étais patron.
Tout ce qui est implicite n'a strictement aucun poids.
Partons du principe que l'entreprise ou la partie d'entreprise qui décide d'adopter la crise a pris, c'est déjà la décision. Donc avant d'appuyer sur le bouton et avant de démarrer, il y a un démarrage avec un lancement. Effectivement, il y a plusieurs choses à faire, dont ce que vous êtes en train de dire, c'est-à-dire qu'on va traduire sous forme de rôle, on va rendre explicite en fait les responsabilités des uns et des autres. Et une des façons de le faire, qui est probablement la plus efficace, bah, c'est de faire le tour des personnes, à la fois en individuel et en collectif par équipe, pour rendre explicite le travail qui est fait, rendre explicite l'ensemble des offres de services, introduire la notion de client-fournisseur, qui est une notion qui permet en fait la parité, la latéralisation, sinon ça va être difficile d'aller vers le self-management. Et donc on définit ça, dans notre jargon on appelle ça l'encodage, c'est-à-dire d'encoder sous forme de rôle les activités qui sont faites par les uns et par les autres.
Pour rendre explicite en fait les responsabilités des uns et des autres.
En fait, Holacracie a juste un objectif, c'est de bien définir pour tout un chacun quelles sont ses autorités et ses limites d'autorité. Donc si je reviens à l'outil, pour ça c'est le rôle. Le rôle est défini par plusieurs éléments. On a évoqué rapidement la notion de redevabilité, donc d'offre de service du rôle. Et aussi la raison d'être. La raison d'être, ce n'est pas que pour l'entreprise, en fait, c'est une notion qui est fractale, donc on va retrouver à tous les niveaux, depuis bien sûr sur l'entreprise, et puis sur chaque équipe, chaque cercle en Holacracie, et puis chacun des rôles. À partir du moment où vous êtes affecté dans un rôle, eh bien, votre autorité est explicitée par la raison d'être et les redevabilités, donc les offres de services. Donc en fait, la définition du rôle, la définition de la raison d'être est une délégation explicite d'autorité. Il y a des limites, hein, je vais venir après, mais donc vous avez cette délégation explicite d'autorité. Vous avez d'autres délégations explicites d'autorité autant que vous avez de redevabilité d'offres de services. Par exemple, vous avez un rôle lieu pour sélectionner et contracter avec les lieux et rechercher des lieux. Eh bien, en fait, ça vous donne autorité explicite pour le faire. Le devoir pour le faire et autorité explicite pour le faire. C'est les deux facettes qui vont bien. Et la raison d'être, vous pouvez vous appuyer dessus, en fait, pour décréter des idées d'action ou de projet en votre âme et conscience si vous pensez que ça va permettre à votre rôle de manifester davantage sa raison d'être. Les seules limites à ça, c'est les interdits explicites. Et là, on est sur un shift énorme en termes de libération d'énergie. C'est-à-dire qu'en Holacracie, la règle du jeu, c'est tout ce qui n'est pas. Tout est autorisé, sauf ce qui est interdit de façon explicite. Ça change tout. Ça ne marche pas comme ça dans le modèle conventionnel. Qu'est-ce qui pourrait être interdit ? Bien, plusieurs choses. D'abord, de transgresser les règles de la dite constitution, donc qui est un métamodèle, donc c'est pas très compliqué en fait. Et puis, ce qu'on peut être amené, ce qu'on voudrait pas transgresser, c'est ce qu'on appelle la notion de domaine. Donc si je reviens à l'unité de base, hein, parce qu'en fait il y a deux choses à comprendre dans la classe, c'est les rôles et les tensions, on en parlera plus tard sans doute. Sur le rôle, il est défini par trois éléments, la raison d'être, on a check, on l'a fait, la notion de redevabilité qui est l'offre de service, et la vitrine si vous voulez, des offres de service que ce rôle offre, comme une micro-entreprise au sein de l'entreprise. Et puis, il y a la notion de domaine. Le domaine est au rôle, est une chasse gardée. Il peut y avoir, dans une entreprise, la nécessité, pour des bonnes raisons, de contrôler soit une activité, soit un processus, soit un actif de l'entreprise. Par exemple, le compte en banque. On peut imaginer, dans une entreprise, tout le monde ne peut pas accéder au compte en banque. Ou bien les prix qu'on fait aux clients. Si tout le monde peut faire tous les prix qu'ils veulent aux clients, ça risque de faire des ordres sur le marché, surtout s'il y a deux clients qui se parlent, qui ont eu la même offre de service et qui se rendent compte qu'ils n'ont pas payé la même chose. Donc, il y a des choses à contrôler. D'un point de vue business, c'est pas rien à voir avec le fait qu'on fasse confiance ou pas, c'est pas rien à voir. Et donc, quand vous avez besoin de contrôler quelque chose comme ça, vous utilisez le domaine. Donc, un rôle est défini par la raison d'être, les domaines et les redevabilités. Donc, il y a ce qu'on appelle la réunion de triage, qui est une réunion opérationnelle très spécifique qui vise à développer le leadership de chacun, sans faire d'ingérence sur le rythme de chacun. Et puis, il y a une autre réunion qui est la réunion de gouvernance. Et dès lors que je voudrais faire évoluer quelque chose, pour mieux faire mon travail en exerçant mes rôles, à ce moment-là, je suis invité à cette réunion de gouvernance. Et là, je peux, à travers un processus très spécifique, changer la structure de rôle. C'est-à-dire, je peux changer, à partir du moment où j'amène un cas concret, réel, je peux changer l'organigramme. Il n'y a plus d'organigramme, mais je peux changer la structure de pouvoir en place, dans le cercle, à travers un processus collectif et une prise de décision collective. Qui va juste agile, qui va juste vérifier que, quelle que soit la proposition qui est apportée, elle ne va pas faire régresser l'entreprise. Et c'est comme ça qu'on va micro-restructurer l'entreprise au gré des réunions de gouvernance. Typiquement, une réunion de gouvernance, ça va durer pour un cercle. Ça va être toutes les six semaines, tous les deux mois, tous les mois, ça dépend. Ça va être entre une heure et deux heures. C'est à peu près ça pour donner un ordre de grandeur.
Et c'est comme ça qu'on va micro-restructurer l'entreprise.
Si on prend un peu de recul, on pourrait définir autrement Holacracie. On s'amuse avec ça, en disant que finalement, Holacracie, c'est un système, c'est un mode de gouvernance qui permet à chacun de gouverner les limites de ses rôles. Là où le modèle conventionnel est un système où il y a une dualité en termes de gouvernance, il y a celui qui gouverne et celui qui est gouverné, ça a donné lieu au contrat de subordination.
Permet à chacun de gouverner les limites de ses rôles.
Ça serait une erreur que d'entamer une telle transformation sans avoir une bonne raison pour le faire. Souvent, c'est des patrons propriétaire d'entreprise, enfin le plus grand nombre. La France est le pays le plus avancé en matière de démocratie. Et si vous regardez les clients, ça touche à peu près tous les secteurs d'activité. Vous observerez qu'en fait, le plus grand nombre d'entreprises sont des entreprises de type PME, ça peut aller jusqu'à plusieurs centaines de personnes, dont le patron ou les patrons sont propriétaires d'entreprise. Et la raison pour laquelle ils font ça, elles sont variées, mais souvent, ça ressort toujours, c'est j'investis parce que je sais que le modèle dans lequel on est, il est pas pérenne, il est has-been, et j'ai besoin de doter, je me sens pas en posture de savoir manager toutes ces évolutions et cette complexité, et donc j'ai besoin de transformer, de muter, de transmuter, en fait, de transformer cette entreprise pour la doter d'un système qui va lui permettre d'évoluer à son rythme et en étant calé par rapport à la raison d'être, et me soulager du même coup. Je me suis rendu compte qu'en tant que patron, je suis le principal goulot d'étranglement pour le développement d'entreprise. Ça, c'est quelque chose qu'on entend tout le temps. Après, il peut y avoir d'autres éléments. Par exemple, chez Scarabée Biocoop, qui est une coopérative de 250 personnes, en plus de ça, il y avait la question de « on a perdu notre âme ». Ce sont des écologistes militants qui ont créé cette coopérative il y a 34 ans, qui a donné lieu à la création il y a 32 ans du réseau Biocoop. Et avec la croissance, à chaque fois qu'il y avait un magasin, il y avait un responsable de magasin, un adjoint du responsable de magasin, pareil pour les restaurants. Donc ils recherchent un mode de gouvernance qui induise l'alignement permanent à la raison d'être.
En tant que patron, je suis le principal goulot d'étranglement pour le développement d'entreprise.
Je suis en train d'écrire un livre justement sur toutes les conclusions de 10 ans plus tard. Et je suis arrivé à plusieurs conclusions. La première, c'est que les fonctions managériales sont utiles, on ne peut pas s'en passer. Et donc le manager, il est toujours utile, simplement le management change de forme, complètement de forme. Et la deuxième conclusion, c'est que le self-management ne peut arriver que s'il y a davantage de management sous une autre forme de management. Et donc il faut passer probablement par l'excellence managériale sous une autre forme managériale pour développer le self-management. Donc, c'est pour ça que je veux publier, parce que je pense qu'il y a beaucoup de confusion, on dit un peu beaucoup de choses, et c'est très bien sur le net et sur le marché en général. Mais l'expérience, en tout cas mon expérience sur 75-80 entreprises arrive à ces conclusions, je ne suis pas le seul à les partager. Donc effectivement, il y a toujours du management, il y a toujours besoin de managers. En fait, on voudrait que tout le monde soit manager, à minima manager de son rôle. C'est ce que j'appelle le self-management. Et puis aussi, les rôles sont regroupés par fonction, donc il y a des cercles, il y a des managers de cercle ou des leaders de cercle. On utilise le mot leader de cercle et leader de rôle, mais c'est du management dans les deux cas.
Les fonctions managériales sont utiles, on ne peut pas s'en passer.
Bah, en termes d'ouvrages, pour l'instant, il y en a deux. Il y a la bande dessinée que vous avez citée et puis le livre de La Révolution de la Crassie de Brian Robertson. Après, on peut aller voir d'autres lectures connexes. La plupart des gens lisent assez facilement. Je pense que quelque chose qui éclaire pas mal, qui est le livre de Frédéric Laloux, Reinventing Organization. Il y a le livre, évidemment, qui est souvent cité de Isaac Gates, Entreprise libérée. Il y a beaucoup de livres. Il y a les livres qui ont été écrits sur Favi. Il y a les livres, tous les livres de Gary Hamel, évidemment. Il y a le livre de Vinette Nayar. Il y a pléthore de livres et d'ouvrages sur le sujet. Puis bientôt, il y en aura un autre à lire. Je crois qu'on est arrivé à une époque où tout ce qui est de l'ordre dans la transformation et accompagnement de transformation, dès qu'il s'agit de changer les comportements, tout ce qui est de l'ordre des formations et du coaching sont arrivés à leurs limites. Et que maintenant, de plus en plus, enfin je le vois dans ma pratique, nous allons utiliser des mécanismes basés sur la théorie des nudges, des mécanismes qui vont être sur la route des personnes comme des mécanismes inévitables. Et holacratie, en fait, on pourrait réduire holacratie, donc on a joué à faire plein de définitions de holacratie, qui n'est pas définissable par définition. Holacratie, c'est un ensemble de nudges ou un ensemble de mécanismes d'adopter des nouveaux comportements, probablement à leur service et au service de l'entreprise.